There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize
consciousness is affected?
There is this thing
on.
There is this thing going on.
Do
you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
Welcome to CQUT's Community News Program. This is the Tuesday edition of the Hour. We are 29 days into the month of May. My name is Stéphanie Clermont. I will be your host for tonight. On tonight's show, we'll hear excerpts from a roundtable discussion at this year's Montreal Anarchist Book Fair with anarchist students involved in the strike. We will also hear part of the Smash the State report from Sound FM Radio in Waterloo, Ontario. In the report, Dan Keller discusses Bill C-309, the proposed federal legislation which could put people in jail for up to 10 years for wearing a mask during a demonstration. Then we'll bring you into the streets of Montreal, where CKUT's Nicole Ebert captured some of the sounds from the now infamous casserole demos against Bill 78 last Thursday. Famous or infamous, according to depending on who you are. But first up, we bring you our Red Square report, CKUT's ongoing in-depth coverage of the Quebec student strike. Today we spoke with activist Alex Popovic about police brutality in the nightly demonstrations in Montreal. You're listening to Of the Hour, breaking all corporate and state-created sound barriers on CQT 90.3 FM in Montreal. To reach Montreal's Community News Collective or to get involved, call 514-448-4041, extension 6788. We'll be right back.
CKUT, vibration, libération, FM, 90.3.
Mon nom est Alexandre Popovic et je suis porte-parole pour la coalition contre la répression et les abus policiers.
Salut Alexandre, merci d'être avec nous à CKUT aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais te demander quelle a été l'implication de la CRAP ou CRAP dans le mouvement étudiant jusqu'à date?
En fait, nous, on n'est pas impliqués dans le mouvement étudiant là, actuellement. On n'a pas d'implication, non, en réalité.
Mais est-ce que vous suivez un peu les agirs de la police dans ce contexte-là?
Pour ce qui est de nos interventions, on est intervenu lors de l'audience de la commission de la sécurité publique de la ville de Montréal, lorsque l'administration Tremblay a proposé de modifier le règlement P6, qui est surnommé le règlement anti-manifestation, donc pour interdire les masques et pour obliger les organisateurs à communiquer le trajet de leurs manifestations aux autorités policières. Donc, il y a deux semaines, je crois, il y a eu une audience publique et la coalition, donc, on s'est prononcé contre, évidemment, les modifications proposées. On a aussi dénoncé naturellement le projet de loi 78. Donc, on a publié une analyse critique sur le site Internet de la CRAP, de la coalition. Bien évidemment, on suit l'actualité de façon générale qui concerne la brutalité policière. Il y a beaucoup de cas, d'informations qui ont été communiquées dans les médias, mais il y en a beaucoup plus. En fait, ce qu'on voit dans les médias, c'est ce n'est que la pointe de l'iceberg, à notre avis. J'ai connaissance personnelle de plusieurs manifestants qui ont été arrêtés illégalement, brutalisés sans raison de façon gratuite par des policiers en manque de défoulement. Et ce n'est que des cas vécus, ceux qui sont parvenus à mes oreilles personnellement. Il y en a beaucoup plus. Et ça, c'est franchement inquiétant, là.
Mm-hmm. J'ai l'impression qu'on a beaucoup entendu parler des balles de plastique et des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés par la police à Victoriaville. Mais depuis cet incident-là, on en a moins entendu parler de la brutalité policière. Est-ce que tu peux nous parler des instances de brutalité depuis Victoriaville?
Ouais, ben c'est le problème, c'est que c'est toujours un peu délicat parce que il y a un certain nombre de victimes pour un certain nombre de raisons qui préfèrent que leur cas ne soit pas mentionné publiquement. Donc, il y a des gens qui ont des raisons de craindre, que je ne remets nullement en question, qui ont des raisons de craindre que ça pourrait se retourner contre eux. Par exemple, une personne qui est en attente là, d'une décision au niveau d'une demande de citoyenneté. Ça, j'ai un exemple précis dans ma tête. Une personne qui a vécu une expérience, c'est vraiment, vraiment incroyable de brutalité policière. Et j'en ai parlé avec elle et cette personne-là ne veut pas exercer aucun recours, aucune plainte de crainte que ça puisse se retourner contre elle. Et c'est une des raisons, pas la seule, c'est une des raisons pourquoi que il y a beaucoup de ces cas-là qui ne sont pas connus du public. Oui. Je pense que l'autre raison aussi, c'est que les médias ne traitent pas de façon générale là, la problématique de la brutalité policière à sa juste valeur, sans aller jusqu'à dire que les médias n'en parlent pas. Je pense qu'il y a quand même un problème d'une dimension importante et on sous-estime ou à tout le moins on néglige la dimension de la problématique de l'abus de force de la part des policiers.
Alors, dans ce cas-là, ouais. Sans aller dans les cas spécifiques, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les tactiques qui sont utilisées par la police et que votre coalition considère comme étant des abus depuis le début de la guerre?
C'est sûr que Dans les cas qui ont été rapportés, là, on parle vraiment de policiers qui ont les nerfs à fleur de peau et qui vont réagir par la violence à des petits gestes qu'ils vont considérer comme étant de la provocation, des gens qui se font sauter dessus, frapper par des policiers, parce que les policiers considéraient qu'ils avaient été nargués et que, bon, là, les policiers se faisaient plusieurs heures, qu'ils portaient 65 livres d'équipement anti-émeute sur eux et qui policiers qui sont sur le bord d'exploser et qui attendent le premier prétexte à toute fin pratique pour se servir de leur bâton et pour frapper. Alors ça, c'est des situations qui se sont présentées dans différentes circonstances, mais à plusieurs reprises.
Des fois, on entend dire que quand il y a des cas de brutalité policière, c'est que l'individu en particulier, le policier comme tel, s'est écarté de son mandat. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Bien, c'est pas trop clair. Quand on parle du mandat, on pourrait parler, par exemple, des lois qui encadrent le travail des policiers. Les policiers ont le droit d'utiliser la force, même la force mortelle, en vertu de l'article 25 du Code criminel canadien. Cependant, tout excès de force, ça entraîne la responsabilité criminelle du policier. Alors, qu'est-ce qui constitue une force qui est considérée comme étant légitime par le législateur et qu'est-ce qui constitue un excès de force de la part de la police? Malheureusement, On n'a pas beaucoup de jurisprudence à ce niveau-là, parce que lorsque les policiers font l'objet de plaintes pour usage abusif de la force, eh bien les dossiers se retrouvent devant le comité de déontologie policière. Et à ce moment-là, ce n'est plus, on n'est plus en matière criminelle. Et c'est une chose qu'on déplore parce que malheureusement, s'il y avait plus de policiers qui étaient accusés au criminel pour avoir fait preuve de violence, bien, je pense qu'on enverrait un message beaucoup plus clair aux policiers à l'effet que la brutalité policière, c'est criminel. Vous pouvez perdre votre emploi, vous pouvez même courir le risque d'être emprisonné lorsque vous frappez des manifestants sans raison. Et les policiers, on sait qu'il y a de nombreux policiers qui tolèrent mal la critique, qui n'aiment pas ça se faire narguer par des manifestants. Cependant, ça là, y a aucune légitimité pour un policier d'utiliser la force et de frapper quelqu'un parce que quelqu'un c'est un peu moqué de lui. Mais malheureusement, c'est des situations qui se sont produites à plusieurs reprises à Montréal et qui malheureusement, on peut craindre que ça va se reproduire à nouveau à l'avenir parce qu'il y a une absence de volonté politique de considérer que c'est un problème puisqu'on a un ministre de la Sécurité publique, M. Robert Dutille, qui défend aveuglément les policiers, peu importe les circonstances, et on a un maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, qui est guère mieux.
Dans le contexte des manifs de soir décentralisées qui ont lieu ces temps-ci, encore une fois, quel est le mandat de la police et le respecte-t-elle?
Donc, ce qu'on constate, c'est que les manifestations nocturnes sont considérées comme étant illégales en vertu des nouvelles dispositions qui ont été adoptées tant à Québec qu'à Montréal. Mais la position du service de police de la ville de Montréal jusqu'à présent, c'est qu'ils vont tolérer les manifestations illégales tant et aussi longtemps qu'elles demeureront pacifiques à leurs yeux. On a vu la semaine passée qu'il y a eu une arrestation de masse record de 518 manifestants. Et le prétexte de cette intervention, semble-t-il, était qu'il y a eu quelques projectiles, et selon mes informations, c'est vraiment un nombre de projectiles très limité, qui ont été lancés en direction des policiers. Et bon, ça a été considéré comme étant un acte criminel, un acte violent, et le service de police a décidé d'imposer une punition collective. 518 personnes, c'est clair que c'était pas 518 personnes qui avaient posé des gestes violents. Alors mais c'est ça. Donc ça n'en prend pas beaucoup pour que le service de police décide de recourir à une répression massive. Cependant, il faut constater une chose, c'est que la police n'applique pas la loi 78. Et de toute façon, avec le nombre de manifestations spontanées qui ont lieu à différents endroits par jour à Montréal, cette loi-là est à toute fin pratique inapplicable.
Est-ce que tu penses que la police se sent un peu pris au dépourvu par l'ampleur du mouvement en ce moment?
Oui, je pense que non seulement la police, mais les tribunaux, lorsqu'il y a eu des injonctions qui ont déferlé, le gouvernement, donc les autorités, les institutions, de façon générale, se sentent dépassées. Même le commissaire à la déontologie policière déclarait dernièrement là, que devant l'afflux de plaintes liées aux manifestations étudiantes, le commissaire à la déontologie policière se questionnait à savoir s'il n'allait pas demander des renforts pour pouvoir traiter là, ce nombre important de plaintes dans les délais prévus par la loi. Et donc, on demande des renforts au niveau du commissaire à la déontologie policière. On demande des renforts au niveau du service de police de la ville de Montréal. Donc, on voit des ministres du gouvernement Charest qui cachent à peine leur désarroi et leur impuissance face à un mouvement qui est sans précédent. Et face à une situation où, à toute fin pratique, la loi spéciale qui a été adoptée il y a maintenant une dizaine de journées et l'arrivée de pratiquement toute la province au complet.
Pendant un moment, il a circulé sur Internet la photo d'un homme non identifié blessé dans une manif qui était supposément dans le coma. Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne?
Bien, les informations que moi j'ai obtenues sont à l'effet que c'est une personne qui a eu des contusions, mais qui n'a pas eu de blessures sérieuses. Contrairement à d'autres personnes, par exemple les exemples à Victoriaville. Donc les informations que nous autres on a obtenues, c'est que c'est une personne qui n'est plus à l'hôpital, qui n'est pas hospitalisée. Donc c'est contrairement à certaines rumeurs qui circulent, ce n'est pas une personne là, qui repose dans le coma. Si on parle de cette fameuse photo là, d'un jeune homme qui est visiblement amoché, couché sur une civière avec un collier cervical, cette personne-là est saine et sauve selon des informations qu'on a obtenues. Puis vraiment, on n'a aucune raison là, de douter de l'authenticité de ces informations-là.
Comment penses-tu que le mouvement étudiant modifie le rapport ou l'impression qu'ont la plupart des gens par rapport aux policiers?
Personnellement, je ne vois pas tant que c'est le mouvement étudiant, mais les policiers eux-mêmes, parce que si je prends des exemples récents, lorsque les policiers anti-émeute débarquent sur la rue Saint-Denis, par exemple, ils se mettent à faire preuve de brutalité policière, de brutalité tout court devant des citoyens qui ne sont nullement impliqués dans les manifestations mais qui subissent les contre-coups tout simplement à cause qu'ils sont au mauvais endroit au mauvais moment ou à la mauvaise terrasse au mauvais moment. Ça, c'est on parle vraiment des policiers qui, par leurs propres agissements, se discréditent là, aux yeux de citoyens qui en temps normal sont même pas impliqués dans rien, ne veulent même pas être impliqués dans rien. Ou encore sur la rue Sainte-Catherine, dont une portion est devenue piétonnière. Il y a une ou deux fins de semaine, les policiers anti-émeutes se promenaient, se déployaient sur cette portion-là de la rue-là. Et il y avait toutes sortes de gens, il y avait des touristes, encore une fois, des gens, des citoyens qui étaient sur les terrasses et qui voyaient les agissements des policiers et qui en étaient troublés, qui ne croyaient pas que ça pouvait être comme ça, la police au Québec. Là.
Alexandre Popovic de la Coalition contre la répression et les abus policiers, merci d'avoir participé à cette entrevue.
Merci à toi.
You're listening to Off the Hour here on CKUT 90.3 FM. We turn now to a recording of a roundtable discussion held at this year's Montreal Anarchist Book Fair on May 19th. The talk was called Student Struggles, Anarchist Struggles, and featured commentary from anarchist activists involved in the student movement. Some of the topics they tackled during the roundtable included the role of anarchists in the organization of the strike, economic disruptions, and the media portrayal of anarchist students.
Donc, avant de passer la parole aux panélistes, je vais faire un petit résumé rapide, puis c'est pas complet du tout, là, parce que je veux juste donner une mise en contexte pour les personnes, peut-être, qui viennent de l'extérieur du Québec, qui n'ont pas suivi la grève comme nous. La première chose, évidemment, c'est que le gouvernement veut augmenter les frais de scolarité de 75%. Il y a d'autres affaires dans son plan de financement de l'éducation dont je ne vais pas parler pour que ça soit plus court, mais le nœud de la guerre, c'est la question de l'augmentation des frais de scolarité. Le mouvement étudiant, de manière unanime, les assos, peu importe les tendances, sont contre l'augmentation des frais, des hausses de frais. Il y en a qui vont prôner la gratuité scolaire, puis il y en a d'autres qui vont prôner un gel. Les trois associations principales sont la Fédération étudiante universitaire du Québec, ça c'est la FEUC, et son parent collégial, la Fédération des étudiants collégiales du Québec. Après ça, il y a la classe. La classe est une coalition qui regroupe plein de différentes associations étudiantes. Mais je vais laisser les autres décrire plus c'est quoi la classe. La grève commence en février 2012 pour certains établissements. Ça fait 14 semaines qu'il y a une grève. Pendant cette grève-là, il y a eu plein de choses allant des manifestations symboliques à des actions de perturbation économique, à des piquets, à plein de différentes sortes d'activités d'éducation populaire, plein d'assemblées, comme vous pouvez imaginer. Mais nos intervenants et intervenantes vont en parler. Il y a eu des négociations avec le gouvernement, si on peut appeler ça des négociations. Il y a eu une entente de principe qui a été rejetée en masse par les associations étudiantes. Par la suite, il y a une augmentation importante de la répression juridique avec des injonctions et aussi la répression policière. Mais les étudiants et étudiantes ne lâchent pas, puis ça continue. Hier soir, moment grave, inusité, adoption de la loi 78 qui encadre le retour en classe et les manifestations. Puis juste pour vous faire le résumé rapide, parce que là, je l'ai analysé aussi. Il y a plusieurs éléments, je ne vais pas aller dans le détail, mais le premier, c'est le réaménagement du calendrier scolaire. Avec plein de détails, mais ça inclut la suspension de la session d'hiver. Il y a aussi l'interdiction de piquetage ou de manifestation à 50 mètres de tous établissements scolaires. Il y a les professeurs et les administrateurs des universités doivent enseigner et doivent se conformer à la loi. Donc, s'il y a piquetage, s'il y a manif plus proche de 50 mètres, si les profs ne suivent pas ce qu'on leur dit de faire, si, en tout cas, il y a des amendes hyper corsées, là, pour un citoyen, citoyenne, 1 000 à 5 000 $, pour un dirigeant ou un représentant, 7 000 à 35 000 $, Pour une association, une organisation qui organise quelque chose d'illégal, selon cette nouvelle loi, 25 000 à 125 000 $. Si une association contrevient à la loi, elle pourrait, ce que la loi dit, c'est que l'administration peut cesser de percevoir les cotisations étudiantes, enlever leurs locaux, puis plein d'autres choses. Ça rentre en vigueur aujourd'hui, 7 heures du matin, et jusqu'en juillet 2013. Donc, voilà la mise en situation. Évidemment, hier soir, il y a eu une grosse manifestation. Certains et certaines estiment à 20 000 personnes qui ont déjà défié la loi. Et il y a des manifestations de prévues dans les semaines à venir aussi, puis des contestations du barreau et tout ça. Donc, voilà. C'est pas en lien de la partie sur les manifestations, c'est pas spécifique au mouvement étudiant. Donc, ça peut être dans le communautaire, ça peut être dans le mouvement des femmes. Oh oui, puis aussi l'encadrement des manifs, j'ai oublié de dire ça. L'encadrement des manifs, là, 8 heures à l'avance, il faut annoncer son trajet. La police peut changer le trajet. Donc, voilà. Et bon. Alors, commençons. Je vous inviterai à répondre peut-être à la première question, qui est la question large. Quel a été et quel est encore aujourd'hui le rôle des anarchistes dans l'organisation de la grève? Peut-être qu'on peut commencer dans l'autre sens. Puis, je vous demanderai de garder vos interventions courtes pour qu'on puisse avoir le plus de temps possible pour un débat contradictoire puis parler avec la salle.
Je pense qu'il y a beaucoup d'anarchistes qui se sont impliqués dans leurs organisations locales ou au sein de la classe, en ayant des rôles ou comme simplement militants, puis en essayant de faire de la mobilisation pour que la grève passe. Je pense que depuis le début de la grève, leur rôle, c'est aussi d'essayer le plus possible de tendre vers la démocratie directe, donc prioriser le fonctionnement par l'Assemblée générale, la rotation des tâches, ainsi diminuer les rapports de domination au sein des associations étudiantes. Par contre, je pense que les critiques sont, qu'on devrait se faire en tant que mouvement anarchiste, et que même s'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués au sein de la classe ou d'autres organisations, il n'y a pas tellement de mouvements ou d'organisations anarchistes qui a pris un rôle en tant que mouvement anarchiste au sein de la grève. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu, même moi je l'ai fait, comme leur organisation anarchiste pour s'impliquer plutôt au sein d'organisations étudiantes, en se disant que la priorité était là, puis qu'il faut quand même faire passer les modes de grève. Puis on est tous humains, il y a 24 heures dans une journée, donc on peut pas tout faire. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'on devrait comme réfléchir. Donc, comment on peut continuer d'occuper nos organisations anarchistes, puis comment celles-ci peuvent avoir un rôle en tant qu'organisation aussi au sein de la grève. Je pense que ça aurait aidé, entre autres, pour promouvoir les actions directes, puis la diversité des tactiques, surtout dans les dernières semaines où on a vu des espèces de manifs où il y avait du monde qui essayait d'empêcher d'autres personnes de commettre des actions. Je pense qu'à ce moment-là, ça aurait été utile d'avoir comme des contingents dans les manifs bien identifiés pour que les gens puissent se rassembler ensemble et se sentir peut-être plus en sécurité d'adopter une diversité des tactiques.
Merci.